Génération Prestart. Génération Prestart. Try again. Try again.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Try Again. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de nos deux camarades Clotilde et Vince dans cette new slot. On passe maintenant à la partie rétro. Et comme chaque semaine, vous le savez maintenant, j'ai ma team autour de moi. J'ai envie de dire ma team Rocket.
Alors
on a Jessie, Martin à ma gauche.
Fuck yeah.
On a Jessie, il y a James, après il y avait James Ellie.
Bonsoir à tous, les geeks et les geeks.
Et puis il te reste plus que Miaous.
Miaous, oui, la guerre.
C'est fantastique. Alors non, nous n'allons pas parler de Pokémon.
Zut, je voulais être Morgane.
Quoique, on aura peut-être des petites choses à dire quand même sur cet univers, puisque aujourd'hui c'est Lionel qui nous a choisi son jeu, et il a choisi de nous parler de...
Super Smash Bros sur Nintendo 64, un jeu apparemment assez réclamé par nos fans et les gens qui nous écoutent.
Oui, là c'est vraiment, enfin c'est pas vraiment pour vous faire plaisir parce qu'on aime beaucoup ce jeu et on y a beaucoup joué, mais voilà, c'est parce qu'on nous l'a réclamé, donc on s'est dit qu'il était temps vraiment de le faire parce qu'il y a eu beaucoup de réclamations.
Voilà, maintenant qu'on était bien chaud, qu'on était bien lancé sur l'émission.
Nous aimons être à l'écoute de nos auditeurs, nous aussi.
Voilà.
Donc si ça tombe en plus sur un jeu qu'on apprécie.
Tout à fait.
Et puis, soyons logiques, comme d'habitude, on commence par la musique et on commence par l'opening de Super Smash Bros. Qui a été composé par Hirozaku Ando.
Yes, et ce soir, je demande le nom de tous les compositeurs.
Non.
Si, je demanderai avant chaque musique qui a composé la musique.
Vous êtes vache, hein. Bon, allez, musique.
M57 Radio.
Try again.
Nous voilà déjà de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et nous sommes dans les Insert Coins. Mais quoi, attends. Si j'ai commencé, j'y vais jusqu'au bout, quoi.
Ben là, ça va aller toute la soirée, alors.
Alors, Insert Coins, aujourd'hui par Martin, qui va être d'ailleurs Maître Martin, puisqu'il va nous apprendre des choses du vocabulaire typique à ce style de jeu.
Tout à fait. En fait, des jeux de baston en général, parce qu'on a discuté un petit peu en préparant l'émission avec Lionel, on s'est dit, ouais, ça fait plusieurs fois on parle de jeux de baston, mais on n'a jamais vraiment expliqué certains termes de jeux de baston qui peuvent exister. Donc, je vais commencer simplement par vous parler du frame rate. Qu'est-ce que le frame rate? Eh ben, c'est tout simplement le taux de rafraîchissement de l'écran. C'est-à-dire que sur les télévisions modernes, on peut avoir un frame rate qui peut aller entre, on va dire, 50, 100 Hz, voire plus. C'est-à-dire que c'est le nombre d'images affichées à la seconde. L'œil humain pouvant en détecter en général 25. Si je dis pas de bêtises.
Ouais, à peu près, on est dans les zones-là, ouais, 25. Et les jeux se situent autour de 30 en moyenne.
Entre 30 et 50. Et alors après, ça dépend aussi de ce que délivre comme signal la machine ou un micro-ordinateur. En général, les consoles européennes pâles avant délivraient du 50 Hz et maintenant plus du 60. Parce que c'était les normes américaines et japonaises. Et donc en fait, pourquoi est-ce que je signale ce point de vue-là? C'est que si les taux de rafraîchissement de la console et de l'écran sont pas les mêmes, et ben du coup, il peut y avoir un lag qui c'est assez dérangeant. Et donc par frame aussi, c'est chaque image qui est affichée avec une animation d'un personnage. Le baston, c'est très important parce que à haut niveau, il y a des joueurs qui font un just frame qui en fait est un mouvement qui peut le faire que durant une seule frame qui composait un mouvement. C'est-à-dire que si un exemple typique, un personnage en jeu de baston va faire une boule de feu, cette boule de feu va comprendre 25 frames, et ben pendant une frame par exemple, il pourra changer un mouvement, il pourra être un petit bout, des choses comme ça. Donc il y a des choses qui existent qui sont assez typiques. Donc le just frame, c'est un terme technique pour quand on joue sur un jeu de baston, quand on fait des combos qui sont vraiment la frame près.
On en avait parlé un peu déjà dans Soul Blade, effectivement il y a beaucoup de jeux qui reprennent ce principe de just frame, mais qui est très difficile à maîtriser en général, puisqu'il faut quand même atteindre un haut niveau pour décortiquer en fait le mouvement des personnages. Voilà.
C'est le timing parfait en fait. Par exemple, comme Edmond Honda, quand il fait son obus, il a une image justement où il est invincible. Ben, il peut par exemple traverser une boule de feu.
Dans Street Fighter 3, on m'a expliqué aussi que Ken était le meilleur personnage parce que les mouvements qu'il a pour faire son Hadouken, une boule de feu, ne prend que 24 frames alors que les autres prennent 25. Donc en fait, cette frame en plus lui permet, par exemple, si on vise des tubes durant cette boule de feu, de faire autre chose et donc de choper le gars. Et c'est-à-dire que ça le rend limite invincible parce qu'il a un avantage.
Pour ceux qui savent vraiment jouer.
Voilà, c'est vraiment poussé au niveau.
Très haut level.
Le just frame, c'est poussé au niveau. Maintenant, par contre, je descends de vocabulaire de base. Vraiment pour les trucs que tout le monde connaît peut-être ou pas. Donc je vais commencer à expliquer ce que c'est que le dash et ce que c'est que le run, parce que ce sont bien deux choses différentes. Le dash, en fait, c'est quand on fait deux fois une direction et d'un coup le personnage va soit courir soit bondir dans la direction, alors que le run, c'est un bouton de course. La différence fondamentale, c'est que le run, en fait, comme ça peut être un bouton, et ben ça peut être une barre. Par exemple, dans Mortal Kombat 3, on a une barre de run qui, une fois qu'elle est activée, et ben on peut taper plus rapidement, alors que faire deux fois avant, ça peut faire courir. Mais il y a une nuance entre taper plus rapidement parce qu'on utilise une barre pour courir que, en fait, faire un bond avant ou arrière pour se déplacer. Ok. J'ai perdu personne?
Non.
Si, moi.
Tu t'as perdu.
Non, mais il faut expliquer, on vient de manger, là, donc.
Mais ça, les gens, ils s'en foutent. Ça, ils nous écoutent, donc, ils en ont rien à faire.
Voilà.
Le dash, tu fais deux fois une direction, tu peux faire un bond ou quelque chose comme ça, mais tu cours pas forcément, alors que le run, c'est vraiment courir. Ça peut être un bouton ou effectivement rester lancé sur une direction. Donc, c'est ça la vraie différence entre les deux. Après, je vais vous parler de la charge. La charge, en fait, c'est maintenir une direction pour parer un coup. Par exemple, dans Street Fighter, le truc le plus bête, faire un Sonic Boom, charger arrière, avant, plus point.
Avec Guile.
Voilà, avec Guile, par exemple. Après, il y a la chop. La chop, c'est-à-dire qu'on est au corps à corps, on appuie sur avant plus un bouton fort, et d'un coup, on prend l'adversaire et on le projette. Ça s'appelle une chop. Après, il y a aussi des coups casse-garde. Qu'est-ce qu'une casse-garde? Généralement, dans un jeu de baston, si on veut se protéger, on fait arrière, ou il y a un bouton garde, ça dépend des jeux. Et effectivement, le personnage est protégé. Et donc, les coups casse-garde permettent de casser la garde, comme ça l'indique de l'adversaire, pour pouvoir continuer à le taper. Donc, suite à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, il existe des coups qui sont des coups launchers. Les coups launchers, en fait, permettent d'envoyer l'adversaire en air, dans les airs. Et donc une fois qu'un adversaire dans les airs avec un launcher, on peut faire un jungle. Un jungle, ça sous-entend que nous, on a encore les pieds au sol, l'adversaire est en l'air et qu'on le tape alors qu'il est en l'air. Ça s'appelle des coups jungle.
D'accord.
Ok, après on peut s'y faire un follow-up. Un follow-up, ça sous-entend que l'ennemi est en l'air, nous d'un coup
on le suit
en l'air pour faire un air combo, c'est-à-dire un combo dans les airs. Donc ça, c'est du vocabulaire technique du jeu de baston que, voilà, on te le sort comme ça sans te l'avoir expliqué, tu comprends pas forcément. Ouais, t'as vu mon jungle avant, ouais, super, ouais, j'ai aimé. Donc, il faut expliquer un tout petit peu ce genre de petites bricoles.
C'est vrai que les gens non-initiés qui écoutent des joueurs parler sont souvent un peu perdus par les termes techniques qu'ils utilisent sur leur jeu favori.
Là, j'y vais en douceur parce que selon les jeux, il y a vraiment des termes qui peuvent être super poussé. Après, il y a aussi le stun. Alors, le stun, c'est quoi en fait? Ça sous-entend qu'on est sonné dans les étoiles, qu'on dit. Et donc là, on ne peut rien faire. L'adversaire peut nous enchaîner. Et si on est dans les étoiles, entre guillemets, souvent on peut se débattre pour essayer de reprendre l'esprit.
Ouais, en général, c'est bourriner un bouton ou tourner un stick ou faire des carrousels, des trucs du style.
Après, il y a aussi le taunt. Alors, le taunt, c'est quoi? C'est l'humiliation qui permet généralement de faire rien d'autre que l'humiliation de l'adversaire. Il existe néanmoins quelques rares jeux où l'humiliation est utile, dans le sens où quand on l'a fait, après l'avoir fait, on a un bonus. Par exemple, on a une attaque plus forte, une meilleure défense.
Dans certains jeux, ça fait baisser par exemple une barre de power, pas forcément la vie, mais une barre de power de l'adversaire ou quelque chose comme ça.
Alors, quand tu parles de barre de power, maintenant je vais arriver au Fury, spécial, ultra et tout ce que vous voulez dans ce contexte-là. Et donc il existe souvent dans les jeux de baston modernes différentes barres. Donc il y a la barre de vie qu'on a, et il y a encore une autre barre que on va l'appeler de manière générique la barre de super. Elle va se remplir de deux manières différentes. Soit on prend des coups, soit on réalise des coups spéciaux. Et une fois qu'elle sera pleine avec différents niveaux, on aura accès à des nouveaux coups spéciaux de notre personnage.
Oui.
Voilà. Qui, eux, sont des coups super. Mais si en fait tu fais la manipulation sans avoir cette barre remplie, ils feront rien. Alors qu'une fois que tu as cette barre remplie, tu peux les faire.
Les super combos et tout ça.
Voilà, c'est ça. On va ensuite parler de gratter. Qu'est-ce que c'est que gratter dans un jeu de baston?
Gratter, c'est...
Tu fais des chatouilles pour
manger. C'est donner des petits coups en rat pour bouffer la barre de l'adversaire.
Ouais, c'est un peu ça. En fait, ça sous-entend que l'adversaire est en défense et que nous, on envoie des coups qui vont quand même lui faire mal alors qu'il est en défense. Genre, par exemple, à Street Fighter, tu envoies une boule de feu, l'autre est en défense, mais il l'absorbe. Ça lui enlève pas toute la vie comme s'il l'avait pris de front, ouais, mais ça lui enlève un petit peu de vie. Ça s'appelle gratter. Ça, c'est ouais, gratter de la vie. Mmh. Après, on va encore parler.
C'est une façon aussi de prendre de la vie sans prendre trop de risques, en fait, quoi.
Ouais, aussi. Je vais parler du cancel. Le cancel, en fait, c'est un terme qui existe surtout dans les jeux de baston modernes pour, en fait, arrêter l'animation d'un personnage et d'un coup, ben, il peut faire autre chose. Donc voilà, je peux encore dire plein
c'est
des termes. Il
ouais,
y a plein de termes. Je peux encore parler de piano input, de fall, enfin, de Yomi, de mind game, de
bah,
plein
écoute,
de choses.
Ça sera peut-être pour une prochaine
plus tard,
fois.
Plus tard.
Parce que là, maintenant, c'est la musique. On va s'écouter Popland Stage, composé par Jun Ishikawa. Et on expliquera d'où vient la musique tout à l'heure parce qu'on a plus le temps.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
Sur M57 Radio en compagnie de ma petite bande de copains pour vous parler de jeux vidéo. On est en direct dans le Versus Mode Round 1 et si vous avez été bien attentif, normalement vous avez dû reconnaître quelque chose, vous avez dû reconnaître Kirby. C'est pas les garçons.
Exactement, c'était ouais, du Kirby.
On
alors Lionel, je pense que tu vas
vous toute
expliquer
la musique.
Pourquoi c'est du Kirby.
Alors ouais, bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi c'est du Kirby. On va prendre ça tranquillement, comme dit. Alors, je vais vous parler donc de Super Smash Bros, qui est donc un jeu paru en 99 sur la Nintendo 64 au Japon. Donc, au Japon le 21 janvier, aux USA en avril et en Europe le 19 novembre. Donc, initialement prévu pour ne sortir qu'au Japon. Le succès commercial du jeu poussera finalement Nintendo à le sortir en dehors de l'archipel, y compris en Europe, ce qui est quand même sympa de leur part.
On a eu de la chance.
N'est-ce pas ? Alors, il faut noter que depuis maintenant quelques temps, le jeu est disponible également sur la console virtuelle de la Wii. Si vous n'avez pas envie de dépoussiérer votre Nintendo 64 pour vous y remettre après que je vous ai alléché avec ce magnifique jeu, vous verrez, vous pourrez trouver ce jeu sur la console virtuelle de la Nintendo Wii.
Mais il faut payer.
Et il faut payer, oui, évidemment. Mais bon, comme dit, le jeu est pas forcément. Enfin. Est assez
oui,
prisé,
le jeu vidéo est très rarement gratuit quand même. Hein.
Ce serait trop beau sinon.
C'est pas faux.
Effectivement. Donc, alors, voilà. Donc, le jeu dont je vais vous parler, donc, qui est Super Smash Bros, repose sur un principe simple. Donc, c'est réunir des personnages emblématiques de l'univers Nintendo et les faire combattre entre eux. Bon, c'est simple et efficace parce que qui d'entre nous n'a jamais dit, s'est jamais posé la question, est-ce que tel héros est plus fort que tel autre?
Non, c'est lui le plus fort.
Voilà. Bon, c'est pas Devil Sputnik qui est l'univers le contraire. Hein,
non, je pense pas, ni Lactantus.
Donc, voilà, en fait, Smash Bros peut nous apporter un début de réponse et surtout un grand moment de fun. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc, le topic du jeu, c'est qu'en fait, ce sont des poupées Nintendo.
Des poupées
Nintendo.
Comme Barbie, ouais.
Voilà, des poupées Nintendo, des espèces de poupées Nintendo qui reprennent vie dans la chambre d'un enfant quelconque, hein, on le voit pas dans les jeux. Mais qui
c'est moi, c'est moi.
D'accord.
Non, mais c'est bien, du coup, on le voit pas, vrai, donc on s'identifie. Voilà.
Qui reprennent vie dans la chambre d'un enfant et donc qui vont s'affronter pour. Voilà, parce que c'est un gamin. En gros, c'est en quelque sorte plus ou moins un enfant qui. On pourrait se dire que c'est un enfant qui joue avec ses poupées et qui s'imagine ses poupées combattre entre elles, quoi. Donc, d'où le
c'est
boss
l'Indien
sort,
du placard ou une nuit au musée, c'est les poupées qui se réveillent la nuit pour se taper dessus, quoi.
C'est un peu ça, effectivement. Donc, nous sommes donc en face à un jeu de baston, mais d'un genre complètement nouveau. Alors, nouveau pourquoi? Ben, contrairement à ce qu'on a l'habitude, ce à quoi on a toujours eu l'habitude dans un jeu de baston, le jeu ne consiste pas à bourriner l'adversaire pour faire baisser sa barre de vie et finalement le mettre KO. Mais alors, vous allez dire, mais comment on gagne? Comment
tu
tue l'adversaire
dessus, ça, de toute façon?
Alors voilà, bon, c'est bien du jeu de baston, effectivement, donc il faudra quand même taper sur tous les ennemis et sur tous les adversaires, tout ce qui bouge de manière générale. Mais il faudra le faire avec un minimum de stratégie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi un peu de stratégie. Le principe donc du jeu étant d'expédier les adversaires de l'arène par tous les moyens à votre disposition. Et il y en a, hein, je vais vous les énumérer plus ou moins de manière pas forcément exhaustive, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Et donc, pour ce faire, il va falloir faire monter le pourcentage de l'adversaire en le frappant. Donc, en gros, chaque personnage n'a pas une barre de vie, mais un pourcentage qui augmente. Et donc,
c'est quoi un pourcentage de dommages subis?
Un pourcentage de dégâts qui peut aller de 0 au maximum de 999%.
Ah ouais, quand même.
Oh, ça, j'ai jamais réussi à faire autant.
Bon, 999%, effectivement, c'est atteignable généralement que dans certaines circonstances très particulières. Genre si l'ennemi est bloqué dans un niveau, dans un petit recoin, un truc comme ça, mais c'est assez rare ça peut se faire, mais c'est pas évident, on va dire. Et donc plus le pourcentage sera haut, plus l'adversaire aura tendance à valser loin lorsqu'on lui infligera généralement un coup spécial appelé smash, ou encore lorsqu'on lui fera une projection après avoir fait un chop de l'adversaire. Donc pour ça, à savoir que le gameplay est assez simplissime, et c'est vraiment simplissime, puisque bon, il suffit de trois boutons, pour un qui donne les coups, qui donne un certain type de coups. Enfin, il y a deux types de coups différents. Et
pour un pied, je sais pas.
Ça dépend des personnages. Ouais.
Il y a un coup pour attaquer et un coup pour les attaques à distance. Par exemple, Pikachu qui envoie son éclair, c'est ça?
Ils ont pas forcément.
Ils ont pas forcément tous une attaque à distance, mais ils vont avoir une attaque un peu spécial quand même.
C'est plus ou moins ça, c'est
un coup deux,
voilà. Okay. Et le bouton pour se mettre en garde ou faire une chope, en fait.
Et si on est un petit peu tricheur et un petit peu nul comme moi, il y avait pas un bouton, il y avait pas c'était peut-être pas sur 64.
Non, le bouton reset, ça sert à.
Non. Un bouton qui fait déjà des combos ou des machins.
C'était sur la GameCube.
Ah, c'était sur GameCube, c'est ce qui me semblait.
Où t'avais le stick, c'est qui était utilisé pour faire les coups spéciaux.
Ouais. En fait,
donc ça, y a pas. Sur Nintendo 64, il y a pas.
4 coups sur. C'était les Smash qui étaient programmés sur le stick.
Alors, je vais jouer sur GameCube, ce sera plus simple.
Voilà. Donc, alors, à
à part c'est avec ses boutons, se rajoute le stick analogique. Mais globalement, c'est à peu près tout ce dont vous aurez besoin pour jouer à Smash Bros. En fait.
Tout. Et mais, du coup, ça change.
Et en même
tout.
Temps.
Parce que, ouais. Par exemple, moi, sur Street Fighter, je sais pas très bien jouer, mais en bourrinant, on arrive à s'en sortir, en bourrinant dans tous les sens. Là, pas contre des très bons joueurs, il y a Ellie qui fait non de la tête parce qu'il est excellentissime à ce jeu. Oh, mais je suis désolée, si on veut prendre un petit peu de plaisir sur ce jeu, on fait n'importe quoi, ça marche sous le Calibur aussi. Dans celui-là, comme à un moment donné, il faut essayer d'éjecter l'ennemi, de lui causer, on va pouvoir lui causer plein de dégâts. Mais si à un moment donné on sait pas comment l'éjecter correctement, il va pas sortir du terrain.
Oui, mais c'est justement les smash, ils sont très simples à réaliser. En fait, c'est juste la direction à appliquer en même temps qu'on appuie sur le bouton.
Mais il faut le connaître, il faut le savoir et il faut le faire correctement.
Mêmes,
au bon
c'est
moment.
Tous les mêmes pour tous les mêmes personnages, c'est la même manipulation, c'est la direction plus le bouton de smash.
Oui, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui va bourriner dans tous les sens sans le savoir, il éjectera jamais personne en dehors du ring.
Si tu sais pas comment faire le smash, qu'on n'a pas au moins la décence de te l'expliquer en début de partie, c'est sûr que tu vas avoir un petit peu de mal. Maintenant, c'est quand même, enfin pour moi, des nombreux jeux de baston auxquels j'ai pu jouer, je trouve que c'est quand même la manipulation la plus simple à faire qu'une direction et un bouton, quoi. Enfin, je sais pas, y a même pas de quart de cercle, y a pas de quart avant arrière chargé machin.
Ouais, genre haut et le bouton.
C'est
une manip simple. Voilà. Quelque part, moi quand j'ai vu les move list du jeu avec ce que les personnages pouvaient faire, souvent c'était une direction plus un bouton, une direction plus un bouton. Et j'avais l'impression, je dis bien que c'est une impression de ma part, qu'en fait selon là où t'es dans le niveau, ça change vachement. C'est que des fois tu vas faire ce coup-ci, des fois ce coup-là. Et moi j'ai trouvé ça super aléatoire et du coup j'ai pas pris plaisir à jouer à un Smash Bros. Mais ça c'est mon côté, je dis pas que c'est un mauvais jeu, c'est juste que moi j'ai trouvé ça super aléatoire et
c'est pas du tout aléatoire quand tu connais les coups, c'est tout. Voilà, après faut connaître ton personnage, mais en fait le truc qui est relativement simple dans le jeu, c'est que si tu sais comment faire les smash, je veux dire, c'est toujours la même chose, c'est au bouton, au A ou B, bas ou B, avant A ou B, arrière A ou B. Donc, je veux dire, c'est tout le temps la même chose.
Les manipulations, c'est vrai.
Les manipulations sont toutes les mêmes pour tous les mêmes personnages.
Mais... Oui, mais ça va pas faire les mêmes sortes de coups, et donc tu vas pas forcément sortir le bon coup au bon moment. Et
alors,
par rapport
après,
à
la seule chose à savoir, c'est à savoir quel coup utiliser, en sachant que il y a des coups qui te permettent en fait de revenir sur l'arène et qui sont différents aussi, enfin qui vont faire des choses différentes en fonction du personnage qu'on joue. Je veux dire, c'est primordial à connaître parce que revenir sur l'arène, c'est la seule façon qu'il y a de rester en vie en fait, c'est de pas perdre de points.
Mais des fois on peut pas, parce que quand on a le coup smash et qu'on a
quand
trop
on
de dégâts,
a un coup
là,
smash avec un grand dégât, on dégage directement dans les airs et on a aucun moyen de se protéger. Mais il faut quand même avoir au moins 100% presque. Enfin, ça dépend des personnages, parce qu'il faut savoir que le poids des personnages joue aussi par exemple un DK qui est plus lourd qu'un Kirby par exemple va avoir tendance à moins 20 le dinguer que lui à pourcentage égal. Donc si t'as un personnage lourd, il sera peut-être plus long à jouer, mais en même temps il va l'aggrave moins vite et il fera peut-être plus de dégâts aussi lorsqu'il
sera plus compliqué à sortir.
Voilà.
On va continuer à parler technique tout à l'heure. On continue avec de la musique. Alors toujours tiré d'un personnage, cette fois-ci ça va être Metroid, puisqu'on écoute Planet Zebes Stage, composé par Hirokazu Tanaka.
Try again. Try again.
C'est la guerre, Miaouss, oui, la guerre. Mais pas la guerre chez les Pokémon, la guerre chez les personnages Nintendo, puisque ce soir, on vous parle de Super Smash Bros. Sur Nintendo 64. Et je redonne la parole à Lionel pour le Versus Mode Round 2.
Voilà, donc je vous parlais de la maniabilité du jeu que je trouvais fortement agréable à mon niveau, en tout cas je la trouvais assez simple. Après bon voilà, on avait un petit débat sur savoir
à condition de s'habituer un tout petit peu.
À condition, on va dire, de connaître après son personnage, c'est tout. Je veux dire, on va prendre un des personnages, on va essayer de voir ce qu'il fait, et puis après une fois qu'on a retenu à peu près, c'est globalement toujours plus ou moins sur le même schéma, les coups sont placés toujours plus ou moins sur le même schéma, du coup on s'y retrouve assez rapidement une fois qu'on a pris un peu l'habitude. Donc, après c'est une question de, bah, comme dans tous les jeux de baston, il y a un minimum d'apprentissage quand même, qui est au minimum de connaître les coups de son personnage. Et je trouve que ils sont pas, il y en a pas une pléthore non plus de coups. C'est comme dit, on va peut-être aller voir une dizaine de coups, une quinzaine maximum par personnage, quoi, au final. Donc c'est pas énorme, je veux dire, pour un jeu de baston, quoi.
Si on a le stick un peu mou, quand faire avant et en même temps B, c'est pas toujours évident.
Pour le stick un peu mou, t'as le stick un peu mou.
Non, lui demande pas d'expliquer, s'il te plaît.
Sur le pad de la Nintendo 64.
D'accord, ouais.
S'il est un peu usé. Enfin, des fois, c'est pas facile d'avoir le bon timing pour faire à la fois avant et le bouton. Mais
on commandera du Viagra pour manette.
Tu peux jouer à la croix?
Non. Non.
Dommage.
Malheureusement.
Dommage.
Bref. Donc voilà. Donc alors le principe du jeu, donc c'est donc d'expédier son adversaire hors d'une arène qui est donc généralement constituée d'un plateau principal. Il y a du vide sur chacun des côtés généralement, et quelques petites plateformes qui viennent s'ajouter et qui viennent agrémenter
le niveau,
rajouter quelques petites choses, quoi. Donc le jeu, en fait, va donner au joueur qui expédie son adversaire hors de l'arène un +1.
D'accord.
Et pénalise le joueur expédié d'un -1.
Mais il revient.
Ça, à part si on choisit un mode de jeu, bon, il y a différents modes de jeu après quand on joue en multi. Là, je vous parle plus ou moins du multijoueur, puisque bon, pour l'instant, je me concentre là-dessus. Je vous parlerai un peu de la suite après. Un suicide, par exemple, c'est-à-dire vous sautez dans le vide sans que personne vous touche. Ça vous donne un -1 également.
Ça arrive souvent, ça, aux débutants, parce qu'en fait, on a deux fois le saut, on peut le faire deux fois, mais quand on va dans le vide, qu'on manipule pas trop bien,
Et puis surtout, des fois, le joueur un peu nouveau va avoir du mal à se concentrer sur son personnage et va peut-être des fois un peu s'emmêler les pinceaux et perdre son personnage des yeux, puisque bon, voilà, c'est un peu des fois
cafouillis.
Il se passe beaucoup de choses. Mais honnêtement, la version 64 est quand même beaucoup moins cafouillis que les versions suivantes, parce qu'il y a beaucoup moins d'artifices, d'effets de lumière, d'effets de choses qui détournent l'attention.
Je suis d'accord avec toi.
Après, ça, c'est bon, voilà, c'est
les goûts et les couleurs.
Ouais, voilà. Mais c'est vrai que dans les Smash Bros, il y a un fond d'écran qui est vivant.
Oui.
Donc des fois, on est un peu perturbé par tout ce qui peut se passer à l'écran et
c'est moins flagrant, je dirais. Enfin, disons que c'est moins gênant dans celui sur 64. Je trouve que des trois Smash Bros qui existent, c'est celui qui souffre le moins de ce problème-là, on va dire.
T'as moins à te préoccuper de ce qui se peut passer en arrière-plan, qui peut ensuite poser des dégâts ou interférer, on va dire.
Ouais, c'est ça. Bon, après, t'as quand même des éléments du décor qui bougent. Mais en général, c'est par exemple, t'as des plateformes mobiles ou des choses comme ça.
T'as pas le niveau aussi de lave, par exemple, qui monte.
Niveau de lave,
des choses comme ça.
C'est pas de la lave, c'est de l'acide normalement.
Ah, ok, c'est de l'acide.
Bon, ça change pas grand chose, le résultat
est le
même.
Dans le monde dont on a écouté Planète la musique.
Oui, juste avant.
Voilà, ouais. Tout à fait. Donc, c'est donc ici en fait qu'intervient donc le côté stratégique dont je vous ai parlé plus ou moins tout à l'heure dans la première partie, puisque peu importe en fait le nombre de coups et le nombre de dommages que vous allez réussir à infliger à votre adversaire, puisque comme le disait Nelly, on peut s'amuser à taper dessus, à lui faire monter son pourcentage à 200%, mais si à un moment donné on l'expédie pas hors du ring, on marque pas de points en fait.
Donc en fait, tu peux jouer comme un rat, t'attends que les autres se tapent dessus, et quand ils ont un gros pourcentage, alors mettre juste le coup décisif et gagner le point.
C'est exactement. On pourra en toute impunité venir finir le joueur qu'un autre a commencé.
C'est dégueulasse.
Et lui prendre ce qu'on pourrait appeler son frag dans un jeu de shoot, mais là son point, alors qu'il lui a infligé, il l'a défoncé de A à Z. Vous arrivez, vous faites votre rat, vous faites votre match, vous l'envoyez bouler, c'est vous qui l'avez touché en dernier. c'est vous qui marquez le point.
Et alors, comment fait-on pour gagner?
Bah, comment fait-on pour gagner? On gagne, en fait, le mode de base, c'est chrono. C'est-à-dire, vous avez 3, 5, enfin, c'est vous qui déterminez le temps que vous allez jouer. Et pendant toute la partie, chaque kill donc rapporte, comme je disais tout à l'heure, plus 1. Et chaque mort vous enlève moins 1. Et chaque suicide également. Et en fait, pour chaque joueur, après, le jeu va faire une balance des plus 1 et des moins 1. Et va donner un score. Par exemple, si vous avez envoyé Valdinguer 3 par 3 adversaires, vous avez plus 3, vous êtes mort, vous êtes fait tuer 2 fois, vous avez un balance de plus 1.
C'est le goal average.
Après,
quoi.
Peut y avoir, voilà, en quelque sorte. Après, peut y avoir des scores négatifs, hein, parce que vous pouvez très bien avoir tué personne et vous vous êtes fait tuer et balancer 3 fois.
Et si, y a plusieurs joueurs qui ont le même goal average,
un goal average, si t'as envie d'appeler ça comme ça, qui est identique, il va y avoir un sudden death généralement.
D'accord.
C'est-à-dire que, enfin, alors après, je sais plus si c'est programmable ou autre, mais normalement, t'as un sudden death, c'est-à-dire que les
mort
deux personnages,
subite.
Voilà, mort subite, t'as un écran mort subite, enfin, qui apparaît, et là, vous avez les deux seuls personnages qui sont concernés, qui vont s'affronter avec un pourcentage de 300% déjà rempli. En gros. Le premier qui met un smash à l'autre, il a gagné, quoi. Donc, et en sachant que peut y avoir des objets. Alors ça, je vais aborder le sujet aussi parce que c'est un gros point du jeu, point très important. Donc, il y a cette sudden death qui va venir départager et qui va déterminer le gagnant, quoi.
Et la sudden death, c'est le premier qui touche ou qui expédie?
Qui expédie. C'est-à-dire que si vous mettez un petit coup mais qui suffit pas pour expédier l'autre, c'est pareil,
ça marche pas.
Faut mettre un smash ou envoyer un objet qui valdingue l'autre.
Les objets.
Ah bah oui, là t'en as trop dit. Faut que tu passes aux objets.
J'avais un peu mon truc fait, mais bon voilà. Donc dans le jeu, on retrouvera des objets. Que vous pourrez utiliser comme bonus. Mais je préfère aborder mon truc dans l'ordre.
Vas-y, on va pas perturber. Déjà que le pauvre, il a été perturbé par la musique dans la première partie.
Déjà, je vais vous parler moi des personnages, puisqu'on retrouve dans le jeu 12 personnages jouables, 8 persos de départ. Donc Kirby, Mario, Pikachu, Deka, Link, Samus Aran, Yoshi et Fox McCloud. Et 4 débloquables.
D'où les musiques de ce soir qui sont très variées.
Ce soir qui sont variées puisqu'elles sont étirées des univers des différents jeux,
de chacun des personnages.
Ah, c'est un sacré crossover. Hein.
Il y a donc 4 personnages débloquables qui sont Ness, Rondoudou, Luigi et Captain Falcon. Certains personnages aussi non jouables qui n'apparaissent que dans le mode solo. Donc DK géant par exemple, Metal Mario et la Créamain. La Créamain, en fait, si vous voulez, c'est un peu... comme je vous disais tout à l'heure, ça se passait dans une chambre d'enfant, on peut imaginer que c'est en fait la main de l'enfant qui anime les personnages. Et donc que les personnages affrontent la main qui les anime, en fait, quoi.
Ouais.
Donc ils veulent, battent contre leur créateur. Puisque ça s'appelle la créa-main,
Ils veulent leur indépendance.
Voilà.
C'est le même boss de fin que dans End of It, le point and click sur PC.
Mm-hmm. Et donc voilà, et donc il y a aussi les petits persos fil de fer qui sont en fait les personnages du jeu mais représentés en mode fil de fer tout simple avec des petits fils de fer violets un peu tout moche, quoi, ça fait un style un peu particulier. Donc voilà. Smash Bros réunit donc à la fois des personnages mais aussi plein d'éléments des univers de jeux Nintendo. Donc tout d'abord, chaque stage, à quelques exceptions près qui sont champ de bataille et destination finale, est inspiré des univers des différents protagonistes. On pourra par exemple combattre dans l'univers de Kirby, donc ou par exemple l'arbre Wispy qui vous souffle dessus pendant le combat et donc qui vous pousse dans le vide, en fait. Vous aurez dans l'arène Planète Zeb aussi, donc dont on a entendu la musique tout à l'heure, qui est tirée de l'univers Metroid, où là on en a discuté déjà tout à l'heure, là il y a la vague acide qui vient vous recouvrir les plateformes du bas et qui expédie en fait les adversaires qui n'ont pas su monter sur la plateforme, et après on retrouve tous les d'autres arènes issues de l'univers Mario, Pokémon, puisque Pokémon fait partie de la partie, d'où le délire de Nelly sur la Team Rocket de tout à l'heure.
Mais pas du tout.
On retrouvera Yoshi, Zelda ou Deka, pour une première. pour le premier jeu.
Il y a du boom.
L'univers de Star Fox aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de une belle team. Bon, il y a que 12 personnages dans le jeu, c'est presque un peu regrettable, je dirais, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu. Quand on voit après dans les suivants, ils ont un peu mis la paquet là-dessus.
Ouais, on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs.
Voilà. Donc en plus des arènes et des personnages, donc on retrouvera effectivement des objets qu'on pourra utiliser comme bonus, comme armes. Et ces objets sont également issus des différents univers du Nintendo. On retrouvera par exemple des tonneaux un peu issus de Donkey Kong, des baguettes magiques, les baguettes magiques étoilées qui sont en fait la baguette de Kirby avec laquelle affronte le boss de fin.
La baguette des rêves.
La baguette des rêves.
Le bâton rêve, il l'avait appelé le sceptre dans la version NES.
Voilà. Les fleurs de feu, les bobombes que pour envoyer à la tête des ennemis pour les faire exploser, les carapaces de Mario, les Pokéballs aussi, dès qu'elles sortent aléatoirement des Pokémon qui viennent en fait à l'aide de celui qui a lancé la Pokéball en fait, puisqu'on peut ramasser les objets et les lancer. Et on retrouverait aussi des mines de proximité de GoldenEye qu'on pourra lancer sur l'arène, et si l'adversaire passe dessus, bah il explose tout simplement, puisque c'est des mines de proximité.
Alors qu'il n'y a pas de tableau GoldenEye.
Non, il y a juste des éléments qui sont intégrés qui viennent d'autres jeux de l'univers Nintendo, entre autres.
Moi, je voulais te demander les sabres laser, ça vient d'où ?
Alors ouais, très bonne question. C'est Fox McFly, je crois que c'est dans Star Fox. Il me semble que c'est tiré de.
Star Fox à l'époque, il y avait pas encore de passage à pied, donc il y avait pas encore de sabre laser.
Ouais, je sais. Attends, mais je me rappelle plus effectivement, puisqu'on peut. J'ai pas eu l'occasion de ressortir le jeu sur Cube, puisqu'il explique ou sur la Wii, puisqu'il explique beaucoup les origines des objets. Donc si on a des lecteurs, auditeurs qui nous écoutent et qui sont sur le chat, postez sur le chat.
Sortez votre cartouche, allez voir et donnez-nous la réponse.
Donnez la réponse à notre forum.
Par exemple. Voilà, donc les objets sont capitaux pour le joueur, puisque son appareil peut généralement souvent changer le cours de la bataille. Celui qui a déjà essayé le marteau de Deka savent que c'est redoutable pour expédier immédiatement tous les adversaires hors du ring, quasiment instantanément.
J'aimerais aussi dire que cet objet fait beaucoup de bruit dans le salon. Là, j'aimerais faire l'anecdote perso de la
semaine. Allez, vas-y, fais l'anecdote. Ça fait longtemps
qu'on en a pas eu. Donc, la première fois que j'ai découvert Smash Bros sur N64, c'était avec Lionel. C'était une soirée, on a mangé des crêpes, on en a parlé avant. Et je me souviens que ce soir-là, je n'ai pas joué au jeu. Je joue aux cartes, autre chose, peu importe. Et en fond, il y avait Lionel avec d'autres personnes qui jouaient à Smash Bros. Et dès que le marteau de Deka arrivait, tous les gens qui jouaient, vraiment tous, hurlaient à la mort.
Non, pas ça.
Et nous, à côté, on était genre 15-20. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc en fait le marteau des cas, c'est l'objet où tu veux être sûr qu'il y ait du bruit dans le salon, tu mets ça dans le jeu, d'un coup il y a tout le monde qui gueule.
Ah mais c'est clair, parce que c'est redoutable. Et franchement bon d'ailleurs je me souviens plus si je sais que dans les suivants il y a des petits trucs avec le marteau où justement il y a des marteaux cassés, des choses comme ça où en fait vous prenez le marteau, vous êtes tout content, vous allez expédier les adversaires, en fait non, le bout du marteau tombe et votre personnage tape dans le vide avec un bâton qui sert à rien en fait.
C'est marrant à voir ça comme un bâton de sucette. Allez,
voilà.
Trop facile sinon.
C'est voilà, donc du coup ça augmente un petit peu le suspense quand quelqu'un va prendre ce prix, parce que généralement quand il y a un marteau qui apparaît, tout le monde se précipite pour récupérer puisque c'est, on va dire, j'aurais presque j'ai ultime quoi, honnêtement, c'est le truc qui inflige un dégât monstrueux et qui expédie en même temps les adversaires.
Tu peux le perdre ou pas?
C'est-à-dire que pour le perdre, il faudrait que les autres puissent te toucher.
Tu peux perdre l'objet volontairement, tu peux t'en débarrasser.
Tu peux t'en débarrasser volontairement, et encore, je suis même pas sûr sur le marteau DK
que
tu puisses le faire. Mais bon, en général, t'as pas envie de le faire, tu l'utilises jusqu'au bout.
Je pense bien. Ouais.
Et donc, quand t'as le marteau, tout le monde t'évite.
En général, les gens fuient. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu la particularité du jeu. C'est qu'en fait vous êtes dans un univers libre, contrairement aux autres jeux de baston où généralement vous êtes plus ou moins fixe face à l'adversaire qui vous affronte, qui est face à vous également. Là, votre personnage se déplace comme plus ou moins comme sur un jeu de plateforme. Donc vous allez pouvoir le déplacer librement dans tout le niveau, lui faire monter sur telle ou telle plateforme sans tenir compte des adversaires et taper sur qui vous voulez choisir, puisque c'est le jeu se joue à 4, très important hein, et il se joue à 4, et donc vous allez pouvoir choisir sur quel adversaire taper quoi. Il est très possible de se mettre à 3 contre 1 quand il y en a un qui a accumulé une dizaine de victoires d'affilée et vous avez un peu tous envie de vous venger sur lui, vous pouvez très bien quoi.
J'ai aussi vu des campeurs à ce jeu. Alors des campeurs, c'est un terme que j'ai pas utilisé, que j'aurais pu dire avant. C'est des gens qui se mettent en gros dans un coin à une certaine distance et puis ils font qu'un seul coup et puis ils attendent. Et genre j'ai vu des campeurs avec Pikachu se mettre en haut d'un endroit puis on voyait que des éclairs sur tout le monde à distance et ils bougeaient pas. En gros ils faisaient toujours le même coup.
Ouais bon c'est pas très. Enfin bon ouais, c'est existe, de l'anti-jeu quoi. Je veux dire après hein, ça fait partie.
Le but c'est l'anti-jeu.
L'anti-jeu ça serait presque un terme aussi à attribuer au jeu de baston je trouve parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se.
Alors pour l'anti jeu, moi je dirais presque qu'on pourrait utiliser le terme, je crois que c'est non, je vais le retrouver, vas-y continue je vais le retrouver, je vais te dire l'anti-jeu ce que c'est
et donc voilà, donc bon, pour en résumé donc Smash Bros c'est vraiment un jeu de baston excellent à jouer généralement à 4 pour un maximum de fun. Bon je vais quand même vous parler un petit peu du mode solo. Même si on va dire que c'est pas le point fort du jeu, hein, on peut le dire clairement.
Non, en fait, l'anti-jeu c'est le Rock. Le Rock, en fait, c'est le personnage qui reste super loin, qui donne un coup pour blesser un peu l'adversaire et qui ensuite fait que garder. Il garde. Et donc comme ça, en fait, son objectif c'est de réussir à gagner en ayant fait un coup au début, puis il continue comme ça. Donc là, si on peut avoir un mec qui est un peu plus loin, qui fait du camping ou voire du zoning en restant loin, éloigné, faire des dommages et puis ensuite il y va. Les gens avec un petit coup, pourquoi pas, voilà, ça pourrait être l'équivalent d'un Rock dans Smash Bros. Mm-hmm.
En ce qui concerne la garde, en fait, t'as une boule qui se forme autour de toi, mais plus tu te prends de coups, plus elle diminue, donc tu peux pas faire parade illimitée.
Ouais, c'est ça, tu peux. Il n'y a pas de casse-garde en proprement parler, c'est les nombres de coups, en fait, que va se prendre. Plus on va se prendre des coups forts, plus la boule diminue rapidement et elle se brise automatiquement. À savoir qu'on peut aussi esquiver, les adversaires en faisant cette garde et une direction, c'est-à-dire que votre personnage va faire une roulade. Et va pouvoir par exemple retrouver derrière l'autre adversaire, alors qu'en général les persos se rendent dedans entre guillemets quoi. Donc,
et donc le mode solo alors ? Qu'est-ce que tu disais ?
Donc le mode solo, je disais que c'était pas le point fort du jeu, puisque bon, en général il y a un espèce de mode arcade où vous devez passer par différents niveaux et affronter l'ordinateur qui est pas forcément très très bon. Et avec un peu d'entraînement, on va dire que les niveaux de difficulté les plus élevés, on arrive assez rapidement
à les passer.
Ouais. Et du coup, il y a trois niveaux bonus qui viennent un peu agrémenter tout ça. Alors le niveau détruire la cible où vous avez des petites cibles à casser.
Je m'en souviens, il y avait un record aussi avec du temps pour ça.
Ouais, y a du temps, donc il faut le faire en un temps donné et donc arriver à faire ce niveau le plus rapidement possible.
Mais ce niveau, c'est toujours le même selon les persos ou...
Je me souviens.
Ça
change en fonction des versions. Il y a des certains jeux où c'est les mêmes pour chaque.
La version cube, je sais qu'il y a différents niveaux, mais dans la version 64.
Dans la version 64, je crois pas, il me semble pas.
Je crois que c'est le même niveau pour tout le monde, mais je suis pas
et
certain.
Et du coup, c'était assez corsé selon le personnage que vous aviez, quoi. C'était plus ou moins difficile. Bon, vous avez des personnages qui volent, c'est plus facile d'atteindre les plateformes que d'autres.
À vérifier, je crois que normalement, sur la version 64, c'est toujours le même niveau, enfin que les cibles au même endroit et tous les persos, alors qu'après ils ont vraiment changé de niveau.
Voilà. Donc bon, on va dire que c'est pas très compliqué à arriver à finir tout ça. Donc il y avait les deux autres mini-jeux, c'était sauter sur des plateformes pour les activer et un autre, il fallait atteindre un petit niveau de plateforme à traverser de long en large en évitant les obstacles ou quelques petits ennemis, mais c'est vraiment bidon quoi. Donc le plus intéressant était quand même détruire la cible, de mon avis, et sauter sur les plateformes. Mais bon, on va dire que c'est clairement pas le point fort du jeu, que c'est vraiment un jeu axé basé sur le multijoueur sur lequel vous prendrez vraiment beaucoup plus de plaisir en jouant à 4 joueurs motivés et qui aiment bien ce style de jeu. C'est vraiment assez fandard quoi.
Et ben merci pour ce décortiquage Lionel, et on s'écoute Yamabuki City Stage de Junichi Masuda, et c'est des Pokémon.
M57, un maximum de musique,
un maximum de musique.
M57 Radio,
It's and Move.
It's and Move.
Génération Prestart.
Génération Prestart.
Désolée, j'ai allumé les micros trop tôt. Je suis désolée.
On nous entend dire quoi, des bêtises?
Pas, non, non, tu t'es arrêté tout de suite. Il y a pas eu de souci, mais
presque
bon.
Rien.
On entend ta douce voix sur la musique des Pokémon. Je suis désolée. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'émission un petit peu folle. Hein, j'ai l'impression.
Ah, mais
même.
C'est pas grave. Il en faut.
C'est du Smash Bros en même temps.
Hein. Ça prouve qu'on est humain, qu'il y a des petites erreurs par-ci par-là. Voilà. Puis voilà que aujourd'hui, c'est la guerre.
C'est la guerre. Et c'est Ellie qui continue la guerre pour le reload.
Alors moi, dans le reload sur Super Smash Bros, je vais vous parler un petit peu des personnages qui ont été rajoutés au fur et à mesure des adaptations après. Enfin, c'est pas des adaptations, des jeux suivants. Quoi. Donc, il y a eu Super Smash Bros. Melee. Donc, ça, c'est la version sur GameCube. Donc, il y avait quand même pas mal de choses qui ont été rajoutées.
Beaucoup de contenu, ouais.
Ouais, beaucoup de contenu, notamment les personnages. Donc, il y a Bowser qui fait son apparition, qui est quand même une grande figure emblématique des méchants de Nintendo. Il y a Dr. Mario. D'ailleurs, je crois que c'est qu'une exclusivité à la version cube.
Ouais, il a été retiré après.
Il n'y a que GBT.
Mais le jeu, il n'est déjà pas exclusif à la cube.
Si, non, mais ce qui veut dire par là, je pense que c'est exclusif à la version de la GameCube, qu'après, ça a été retiré dans la version Wii.
Exactement.
Ils n'ont pas repris le personnage dans la version Wii. C'est en général, ils augmentent. Enfin, c'est vrai que c'est un peu surprenant la façon d'avoir procédé de Nintendo. De retirer des personnages alors comment on aurait plutôt tendance à en rajouter et pas les
autres. C'est-à-dire que par rapport au roster de base, c'est-à-dire que les personnages de base qu'il y a dans la première version, on penserait qu'ils prendraient toujours les mêmes et qu'à chaque fois ils en rajouteraient, et puis en fait lui il apparaît hop que dans cet épisode.
Exactement. Il apparaît après les retirer.
C'est pas le seul d'ailleurs, j'y reviendrai. Il y a Falco Lombardi qui vient de Star Fox qui a été rajouté mais qui sera encore dans la version suivante.
Ouais.
Ganondorf, donc ça c'est le grand méchant dans les Zelda. Donc on retrouve également
Prince des voleurs.
Ouais, c'est de la version Ocarina of Time, je crois, qui a été reprise.
Oui, c'est ça.
Il y a Ice Climber, donc ça c'est du jeu sur NES. Vous souvenez avec les marteaux et
les marteaux. Ils sont d'ailleurs à deux. Ils jouent avec les deux bonhommes en même temps.
C'est perturbant d'ailleurs de temps en temps.
Et d'ailleurs, on peut en éliminer un des deux, mais c'est en fait que le bleu qui prend le dessus. C'est-à-dire qu'en gros, si vous expédiez le petit bonhomme rose, qui est la fille du groupe, ça vous rapporte pas de points. Et l'autre continue en fait tout seul quoi à taper, mais il peut et du coup non, il a des coups qui sont il a des coups qu'il arrive moins bien à faire en fait, parce qu'il a des coups par exemple où ils se tiennent par la main et avec leur marteau ils tournoient et ils envoient les adversaires, du coup c'est ils peuvent plus faire ce coup là
donc pour dire que c'est quand même un jeu très original. Alors, il y a Meta Knight qui fait son apparition dans cette version. Donc ça, c'est un méchant qu'on avait trouvé dans les Kirby.
C'est Lolo qui est déguisé.
On en a parlé il y a pas longtemps, vous souvenez?
Mais bien sûr.
Moi, je me souviens très bien.
Alors, qui connaît Mewtwo, les amateurs de Pokémon.
Moi, je l'ai battu dans Pokémon Puzzle League.
Donc c'est un personnage qui te tient à cœur.
Moi, je l'ai battu sur Pokémon version jaune.
Ça, c'est une exclusivité à la version sur GameCube. On trouve Mr. Game & Watch. Ah, ça vous parle?
Ouais.
Donc les Game & Watch qui donnaient l'heure et qui faisaient des petits jeux vidéo portables sur cristaux liquides de Nintendo qui datent de
longtemps.
Il est juste dessiné avec son contour, quoi. Voilà, c'est pas un personnage soigné.
Début des années 80.
Ouais. Voilà.
Presque 30 ans maintenant.
Et là, ils ont repris le design du personnage exactement tel quel. Alors toi, avec un marteau ou... Une chaise, il peut taper, non?
Ouais, une chaise, une poêle à frire. Il peut sortir pas mal de choses, en fait. Il fait une espèce de plaque d'égout, je sais pas quoi. Enfin, un truc. Il reprend des éléments, en fait, des jeux Game & Watch, quoi, dont il était le héros, en fait.
Ensuite, on retrouve Princess Peach. Comme quoi, c'est pas une princesse nunuche qui ne fait que se faire kidnapper. Ben là, elle apparaît et elle bastonne.
Elle prend des pêches.
Tout à fait.
Comme ça, on peut jouer avec les filles.
Elle tape avec Todd. Enfin, elle a un coup bizarre avec Todd. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Elle sort Todd et Todd, il hurle ou je sais pas quoi. Et...
Montre-moi ça, ça m'intéresse. D'ailleurs, ça m'intéresse.
Todd, je crois que Todd, il crache du feu s'il se fait taper ou un truc comme ça. Enfin,
d'accord.
C'est un truc du style.
C'est un champignon atomique. Alors, on retrouve Pichu. Pichu qui est une exclusivité à cette version également.
Aussi, ouais.
L'évolution de Pikachu.
Non, c'est Pikachu qui est l'évolution de Pichu.
Ah, d'accord.
Alors, moi, je comprends un peu pourquoi ils l'ont enlevé, parce qu'en fait, Pichu, c'était un Pikachu avec un handicap, c'est-à-dire qu'en gros, quand il faisait des attaques électriques, il se faisait mal à lui-même, donc il faisait augmenter ses propres pourcentages.
Ça me rappelle Yoshimitsu dans...
Ouais. Donc du coup, si vous avez le choix entre Pikachu et Pichu, prenez Pikachu, quoi. Je veux dire, faut être con pour prendre un personnage qui se fait mal tout seul.
Il est
quoi.
Tellement mignon.
C'est handicap quand t'es trop bon, ça.
Voilà, c'est ça. En fait, tu donnes ça à certains de nos amis qui jouent trop bien avec Pikachu et du coup, ça leur donne un handicap. Effectivement.
Moi, j'aime bien jouer avec Pikachu. C'est mon personnage favori.
Ouais.
Donc après ça, on retrouve Shaik de Ocarina of Time ainsi que la princesse Zelda.
Bah les deux en un, en fait.
Spoiler, non. Spoiler.
Non, mais ils sont, ces deux personnages, vous en avez qu'un seul.
On va les compter
dans cette
version-là.
C'est qu'un seul personnage qui se transforme normalement.
Voilà, c'est
on fait bas et B, on fait bas et B avec le boule, la manette et elle se transforme.
Et après, par la suite, ça va devenir deux personnages ou toujours un.
Non, je crois que c'est toujours un, je crois,
qui se transforme.
Mais je crois qu'on peut choisir si on commence avec Check ou si on choisit, on commence avec la princesse.
D'accord.
Ouais. Autre personnage de Ocarina of Time, c'est Link, mais version enfant cette fois. Parce que dans Ocarina of Time, on rappelle, on commence enfant.
Et après, on passe adolescent.
Ouais, voilà. Les deux sont dans l'épisode en fait.
Voilà, là ils ont rajouté Link enfant d'ailleurs, qui est aussi une exclusivité de la version cube.
Oui, après il sera remplacé par Link cartoon en fait dans la version Smash Bros Brawl.
Ouais. Ensuite il y a des personnages de Fire Emblem qu'on retrouve. Donc il y a Mars et il y a Roy. Roy qui est aussi que dans cette version.
Et Ike.
Il a l'air sûr.
Fire Emblem qui est arrivé chez nous très tard, vu que c'est une série de tactical RPG qui au Japon marche depuis
longtemps. Ouais. En fait, je croyais que Ike il était apparu que dans la version sur Wii. Mais...
Non, je crois qu'il était. Il me semble qu'il y avait Ike et Roy, et après c'était devenu juste Ike et Mars, il me semble. Mais bon, après à vérifier.
Bah ouais. Et ensuite, donc, vu le succès du jeu, il y a une suite sur Wii. Donc Super Smash Bros Brawl, que vous connaissez sans doute.
Dernière sortie en date.
Donc il y a Diddy Kong, il y a Link, cette fois version cartoon, il y a Lucas de Mother 3. Il y a Lucario de Pokémon, il y a Olimar,
c'est dans Pikmin.
Ouais, ça c'est sympa, il attaque avec les petits Pikmin, il les balance sur l'autre. Il y a Pete de Kid Icarus sur NES, oh ça date ça, hein. La Grèce antique. Il y a Rob, le robot sur NES également, ça vous connaissez.
Yes, oui, je l'ai à la maison.
C'est Rob, rare, ça. Rob était un héros de jeux vidéo.
Ouais.
C'était un accessoire
et c'était aussi un héros, il me semble.
C'est-à-dire qu'il apparaissait, dans un jeu dont l'accessoire, enfin pour lequel l'accessoire était utile, mais du coup il apparaissait.
Dans Stack Up aussi, c'était utile. Il y a eu plusieurs jeux avec le robot, je crois, 5 ou 6, je les ai pas en tête.
Voilà, maintenant, question pour vous. Je vais vous donner le nom de ce personnage et vous me donnez son autre nom si vous le savez. Le roi d'Adidou.
Dédédé. On l'a vu.
Dédédé, c'est pour ça que je pose la question, pour savoir si vous avez suivi. Ensuite, il y a Samus qu'on peut jouer. On pouvait déjà la jouer avant, mais là, cette fois-ci, elle est sans armure. Et là, on découvre que c'est une femme.
Oui. Ouais.
Mais ça, on le voit depuis la première version de Metroid sur NES. On peut faire un code pour la jouer directement sans l'armure.
Mais dans la version de Samus, elle peut perdre son armure en fait quand elle fait son coup spécial, un truc comme ça. Je crois qu'elle a un final smash ou un truc comme ça qu'elle fait. Et elle en perd son armure et après en récupérant je sais plus quoi on peut récupérer l'armure, mais du coup c'est pareil, elle a son armure et après elle la perd dans le jeu et on peut choisir je crois avec un code ou une combinaison de boutons de commencer avec Samus sans armure.
Ensuite on a Snake de Metal Gear, on a Sonic qui apparaît alors que c'est un personnage Sega, c'est vraiment
Même Metal Gear, si on va par là, c'est vrai que c'est un personnage Konami qui apparaît dans le jeu. Et après c'est sympa parce qu'ils ont trouvé un moyen, enfin je trouve que c'est original d'avoir des guests en fait dans un jeu comme ça.
Moi j'en suis très content. Ah ouais, à fond.
Franchement je trouve, enfin même à la limite ils auraient presque pu chercher à en avoir plus quoi. Bon, c'est déjà des gros exclus je trouve.
C'est des beaux noms.
Voilà, c'est des grands noms on va dire quoi.
Ensuite on a des dresseurs Pokémon, on a Wario, on a Wolf O'Donnell, c'est de Lilith War.
Ouais.
Moi, je crois qu'on a fait à peu près le tour des nouveaux personnages.
Ça fait un petit paquet.
Mais il y a un personnage, ça m'attriste un petit peu aujourd'hui, qu'on n'avait pas plus parlé, c'est Ness. Parce que je suis un grand fan de Earthbound.
Ah oui, personnage caché qui apparaît dès le premier volet sur Nintendo 64. Voilà,
il est très difficile à jouer en fait dans le jeu.
C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, je pense.
Mais moi, j'aime beaucoup le personnage parce que j'ai beaucoup aimé Earthbound.
Ouais. Parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure des coups qui font revenir sur le terrain. En fait, lui, il en a un, mais il est très compliqué parce qu'en fait, pour pouvoir se propulser sur le terrain, quand il tombe dans le vide, il lance en fait une boule de feu vers le haut et on peut la diriger, et si on arrive à la diriger en dessous Ness, ça le fait sauter, ça le refait sauter en l'air.
En gros, tu fais une boule de feu pour te la prendre toi-même pour partir en l'air.
Voilà, tu te mets une boule dans les fesses pour remonter, pour remonter et revenir sur le plateau. Mais c'est super difficile à faire parce qu'il faut manier. Quand on manie la boule de feu, on manie plus son personnage et c'est très difficile de la faire passer en dessous. Et enfin, c'est pas simple du tout, quoi.
Moi, je voulais également parler des nouveautés qui ont été rajoutées après la version Nintendo 64. Donc, sur Nintendo 64, il y avait donc le multi de 1 à 4. Enfin, de 1, c'est pas du multi. De 2 à 4. Et le regular match. Il y a les bonus stages, donc plateforme et cible. Et après, il y a eu dans Smash Bros. Melee le Event Match. Donc, c'est une sorte de mode aventure où tu commences dans le monde de Mario.
Le Event Match, c'était c'est ce dont on parlait. C'était les petits, en gros, il y a plein d'événements et puis tu choisis celui que tu veux faire avec un objectif particulier. Le mode aventure, c'est encore un autre mode où, tu suis une espèce de petit monde plateforme et tu dois avancer dans ce monde plateforme, quoi.
Mm-hmm. Ensuite, un mode que j'ai beaucoup apprécié sur GameCube, c'est le Home Run Contest. Même si je suis pas très fort, je fais 170 mètres. En fait, il faut lancer une sorte de punching ball. Il faut d'abord le charger en coup un maximum de dégâts. Donc
le taper sans le faire tomber de la plateforme.
Voilà.
C'est pas évident.
Quitte à le faire avancer un tout petit peu sur la plateforme et après à donner un gros coup pour l'envoyer.
Un smash.
Le record du monde, c'est 3457 mètres et 90 centimètres.
C'est long.
C'est bourrin.
J'ai fait des recherches. C'est pas moi. Hein.
C'est sûr. Non, mais c'est très bourrin. J'ai déjà vu des trucs le faire. C'est pas évident du tout.
Ensuite, il y a le Multiman Melee. Donc, c'est l'endurance. 10 personnes à tuer, 100 personnes. Ou alors en temps, 3 à 15 minutes. Ou alors infini. Ou alors en cruel. En cruel, c'est là où
c'est horrible. C'est horrible.
Tous les personnages les plus difficiles.
Je crois que ce qui est plus cruel, c'est qu'on va devoir se quitter.
Ouais, ça fait pas mal de choses si vous voulez rejouer, pas mal de nouveautés, donc n'hésitez pas. Évidemment, c'est la fin de l'émission. On se quitte comme d'habitude avec une petite musique. Ending Staff Roll de Hirozaku Ando. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour un Ghost and Goblin sur arcade. Ça va un petit peu nous changer. Et puis le petit moment de pub, n'hésitez pas à nous retrouver sur les Facebook, sur notre forum forumtryagain.com, et on vous fait plein de bisous. On vous retrouve sur les chats, les forums, les Facebook.
Salut.
À la semaine prochaine sur M57.
Salut à tous.
M57 Radio.
Game over.